Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour. Nouvelle année qui s'ouvre et que nous commençons aujourd'hui avec un thème symbolique pour des temps électriques, en se reposant une question soulevée il y a déjà plusieurs années, la question de la constitutionnalisation du droit d'accès à Internet. Pour cela, j'ai le très grand plaisir de recevoir un spécialiste de la Constitution, le spécialiste du moment peut-être, Thibaut Mullier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Nanterre, constitutionnaliste donc. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous livrer votre expertise.
Merci.
Constitution et accès à Internet, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des Temps électriques.
Avec Internet, Lucie Henry communique mieux.
Je dis qu'il faut envoyer, alors clique, vas-y.
Connectez-vous à Internet.
Tu cliques parce que moi je sais pas faire, soi-disant. Alors vas-y, montre-moi.
Mais tu me dis de cliquer, moi j'ai cliqué.
Au bon endroit.
Tiens, connexion.
Moi, c'est marqué connexion, là.
Mais tu m'agresses.
Oh là là, tu finis, moi je m'en vais.
Tu ne sais pas cliquer avec un doigt, comme ça, là.
Toi, tu sais ce que c'est qu'un email?
Assistance téléphonique gratuite 7 jours sur 7, une exclusivité AOL. AOL, maintenant vous êtes efficace sur Internet.
Peut-on envisager vivre sans Internet aujourd'hui? Cette publicité témoigne avec un brin d'humour des difficultés que ce changement a générées pour de nombreuses personnes. Ouvert au public en 1996, le réseau Internet a franchi en juillet dernier la barre des 5,19 milliards d'usagers, soit environ 64,5% de la population mondiale. Mais les chiffres ayant toujours un temps de retard inévitable avec la réalité, la pénétration réelle de l'Internet est probablement plus élevée encore. Malgré tout, derrière ces estimations, une disparité encore grande existe sur le terrain, eu égard à la qualité de la connexion Internet dont disposent encore certains foyers français. Un certain nombre de territoires peu densément peuplés sont même synonymes de zones blanches, c'est-à-dire non couvertes par un réseau mobile. Pourtant, l'objectif en termes de politique publique est réaffirmé. En 2025, conformément au plan France très haut débit, la France devra être entièrement fibrée. Le moment est donc venu de renouveler le contrat social entre les gouvernants et leur population ainsi qu'au sein des sociétés. C'est ainsi, en ces termes, que s'exprimait le secrétaire général des Nations Unies dans son rapport de 2021. Dans ce nouveau contrat social, il annonçait des dispositions de gouvernance actualisée, parmi lesquelles l'accès universel à Internet d'ici 2030 en tant que droit humain fondamental. Et ce n'était pas la première fois d'ailleurs que l'ONU annonçait que les politiques gouvernementales en matière d'accès à Internet devaient être fondées sur les droits de l'homme et axées sur l'utilisateur. De là, protéger ce droit d'accéder à Internet pour tout ce qui en découle est apparu essentiel, au point que l'idée de constitutionnaliser le droit d'accès à Internet en tant que tel fut proposée en France il y a quelques années maintenant. Proposition obsolète ou toujours d'actualité, fin 2023, toujours est-il que le président de la République proposait de réviser la Constitution. Alors pourquoi ne pas y voir une opportunité, audacieuse peut-être, de rediscuter ce projet, déjà débattu mais jusqu'à présent rejeté. Alors Constitution et Internet, c'est une rencontre fortuite? Pas si sûr, on en parle dans un instant avec vous, Thibaut Mullier.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, hardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Ce petit coin de parapluie que nous chantait Georges Brassens, la Constitution peut-elle l'offrir au droit d'accès à Internet, Thibaut Mullier? Avant de parler spécifiquement de ce droit d'accès, je rappelle donc que vous êtes constitutionnaliste. Quel est donc l'intérêt juridique, l'enjeu à conférer à un droit, une valeur constitutionnelle? Peut-être qu'on peut commencer par là.
Eh bien, de manière générale, constitutionnaliser un droit ou une liberté a deux avantages principaux. Le premier, il est sans doute peu intéressant pour le juriste, mais il n'est pas à négliger, c'est la question de la symbolique. Constitutionnaliser un droit ou une liberté, sans s'interroger à ce stade sur son effectivité, c'est lui donner une certaine solennité, dans le sens où eh bien, on va pouvoir considérer qu'il est au sommet de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que eh bien, aucune norme de type réglementaire ou législatif ne pourra y porter atteinte. Mais il y a aussi un élément plus intéressant pour le juriste à minima, c'est que la constitutionnalisation, eh bien, mais c'est lié, permet dans une certaine mesure, à côté de cette solennité symbolique et politique, eh bien, de lui donner une solennité juridique qui va consister à s'assurer qu'au terme d'un contrôle de constitutionnalité, qui peut être opéré par un juge, alors en France ce sera le Conseil constitutionnel ou le juge ordinaire, eh bien que les différentes normes qui lui sont directement inférieures, c'est-à-dire la loi pour ce qui nous intéresse essentiellement et les règlements éventuellement, eh bien ne portent pas atteinte au droit qui sera garanti par la Constitution. Et ces deux éléments, le symbolique et le juridique, en fait doivent être pensés ensemble. On le voit sur une question qui ne concerne pas Constitution Internet, mais qui est dans le débat public, notamment avec le projet actuel de révision de la Constitution, c'est-à-dire la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, où il y a une dimension symbolique, bien évidemment, à constitutionnaliser eh bien, ce droit, mais il y a aussi une question juridique, c'est de limiter, en cas de changement de majorité par exemple, eh bien, la possibilité pour le législateur de porter atteinte à ce droit à l'IVG.
Et alors, qu'est-ce que ça implique si on veut constitutionnaliser un droit qui donc est consacré à d'autres écarts dans le système juridique? Qu'est-ce que ça implique techniquement, si vous pouvez vulgariser la chose et le simplifier pour nos auditeurs?
Ça implique de réviser la Constitution d'une part. Réviser la Constitution sous la Ve République, ça consiste en fait à recourir à un article, l'article 89 de la Constitution, qui va consister en fonction de qui est à l'initiative. Ça peut être un groupe de parlementaires ou ça peut être l'exécutif et notamment le couple président de la République et Premier ministre. Ça consiste dans un premier temps à essayer de mettre d'accord sur un projet ou une proposition de loi constitutionnelle, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui doivent in fine se mettre d'accord dans les mêmes termes, et l'un ne peut pas avoir le dernier mot sur l'autre, comme on peut le constater dans la vie de tous les jours pour des projets de loi plus ordinaires. Et une fois que éventuellement cet accord entre les deux chambres était trouvé, alors il faudrait inscrire, si je puis dire, dans la Constitution cette révision, et ça passerait soit par un référendum constituant, c'est-à-dire solliciter le peuple souverain pour qu'il se prononce sur le projet qui a été trouvé la proposition qui a été trouvée entre l'Assemblée et le Sénat, ou à défaut, si le président le décide, eh bien, de soumettre l'adoption de cette révision constitutionnelle, eh bien, à un vote du Congrès du Parlement, c'est-à-dire à une réunion physique de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles pour adopter la révision constitutionnelle avec une contrainte non négligeable, c'est une majorité qualifiée qu'il faut obtenir, c'est-à-dire un vote aux 3/5.
Alors, on va parler ensemble de ce projet qui avait été lancé et qui est resté en suspens de constitutionnaliser le droit d'accès à Internet. Et pour l'heure, ce droit d'accès, où est-il protégé? On en est où au niveau textuel?
Alors, sur le plan du droit constitutionnel formel, il n'existe pas en tant que tel, du moins de façon explicite, un droit constitutionnel de l'accès à Internet. On l'a plus ou moins formalisé dans des textes de loi, je pense notamment à la loi pour une République numérique de 2016, mais il n'est pas, en ces termes en tout cas, constitutionnalisé. En revanche, qu'on constate, c'est que le Conseil constitutionnel, au travers de sa principale fonction, c'est-à-dire statuer sur la conformité des lois à la Constitution, a pu rendre une décision très importante, il y a plus d'une dizaine d'années désormais, une décision au cours de l'année 2009, relative à la loi dite Hadopi, et qui a consisté finalement à consacrer un droit de l'accès à Internet qui serait dans une certaine mesure la condition nécessaire pour réaliser d'autres droits et libertés garantis par la Constitution, à commencer par la liberté de communication et d'expression. En fait, le Conseil constitutionnel a utilisé une méthode très classique qu'on appelle la méthode d'annexion, c'est-à-dire de considérer que la liberté de communication et la liberté d'expression impliquent qu'il faille prévoir un droit d'accès à l'Internet et un droit d'accès qui soit protégé au niveau constitutionnel, mais à partir de cette jurisprudence qui fait que le Conseil constitutionnel peut revenir sur sa propre jurisprudence ou une révision constitutionnelle pourrait interdire la constitutionnalité de ce droit à Internet. Donc c'est certes protégé au rang constitutionnel à travers cette jurisprudence, mais cette protection n'est pas aussi fondamentale, si je puis dire, que si le droit d'accès était constitutionnalisé explicitement dans un texte de valeur constitutionnelle.
Et donc c'est de là, vous diriez, qu'est venu le projet d'élever au rang constitutionnel ce principe. Et dans quel texte, dans quoi finalement ce projet avait été soumis? Vous évoquiez l'idée qu'il fallait une révision de la Constitution, mais quel était le projet à l'époque? On est en 2018, lorsqu'il a été soumis finalement au Parlement. Est-ce que vous pourriez reprendre cet historique?
Oui. en 2000...
Je fais référence à la question de la charte.
Oui, oui, bien finalement. Sûr, à la charte du numérique, enfin des droits et libertés du numérique. Au moment de l'accession au pouvoir, enfin en tout cas au premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu une réflexion globale qui ne concernait pas que le numérique sur la question de savoir est-ce qu'on révise la Constitution. Et c'était notamment l'idée de mettre à jour certaines dispositions constitutionnelles, mais aussi de promouvoir une sorte de logique de renouveau démocratique. Enfin, c'est un vocable politique. Mais un certain nombre de groupes de parlementaires qui étaient transpartisans et qui étaient transassemblés, qui a concerné aussi bien les sénateurs que les députés, et qui étaient notamment portés par Madame Fortalèze, l'idée a été de réfléchir en amont de ce projet de révision constitutionnelle plus large à, dans une certaine mesure, faire la même chose qui avait été faite 15 ans plus tôt avec la Charte de l'environnement, c'est-à-dire de prévoir une charte des droits et libertés du numérique et d'intégrer la référence à cette charte dans le préambule de la Constitution, comme on l'avait fait avec la charte de l'environnement, de aussi reconnaître le rôle du numérique dans l'expression démocratique, notamment à l'article 4 de la Constitution, et d'élargir dans le domaine législatif la compétence du législateur aux enjeux liés au numérique, en révisant l'article 34 de la Constitution. Et cette réflexion transpartisane, très intéressante, elle répondait en fait de manière assez conjoncturelle au fait qu'il y avait un impératif qui se présentés de protection des données personnelles, mais il y avait aussi eh bien, des retours d'expérience, si je puis dire, de la difficulté que représente l'outil Internet, notamment dans la vie démocratique avec les élections américaines au moment de l'élection de Donald Trump. Et l'idée, c'était vraiment de protéger les droits et les libertés du numérique, de garantir notamment un accès à Internet au rang constitutionnel à travers cette charte, et donc avait été proposé eh bien, d'amender le projet de loi constitutionnel. Donc ce n'était pas une initiative gouvernementale, mais il y avait une sorte d'intérêt, pas de bienveillance, mais d'intérêt de la majorité et du gouvernement, donc pour dire « ok, il faut réfléchir à cet enjeu-là ». Et finalement, au moment où est amendé, enfin, où est proposé cet amendement au projet de loi constitutionnelle, eh bien, la majorité elle-même qui suivait Emmanuel Macron a refusé cette inscription. Et en plus de ça, de manière générale, le projet de loi constitutionnelle n'a pas abouti à la suite de l'affaire Benalla.
Évidemment, j'ai envie de vous demander pourquoi, et notamment, je pense à l'époque, à la garde des Sceaux, qui était Nicole Belloubet, qui avait souligné, dans un avis défavorable, et effectivement, qu'elle estimait que ça risquait que de tels principes étaient certainement un risque au vu de l'appréciation des juges, au vu des experts. Il y avait une certaine crainte qui était exprimée à cet égard, que créer tel principe sans en mesurer vraiment la portée était à cet égard dangereux. Est-ce qu'avec le recul, vous partagez cette crainte finalement ?
Alors, je connais bien ce propos de Madame Belloubet qui, en plus de cela, a une formation de juriste, puisqu'elle était professeure de droit public. Elle l'est toujours, d'ailleurs, sauf erreur. Mais je n'ai pas vraiment compris cette réticence. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris de son propos. Finalement, quand on regarde la décision de 2009 du Conseil constitutionnel, eh bien, le Conseil dit simplement qu'il y a un droit à l'accès à l'Internet comme condition pour l'exercice d'un autre droit et d'une autre liberté, la liberté de conscience, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Là, ce qui semble avoir été craint, et je pense aux propos de Madame Belloubet et aussi à d'autres membres de la majorité, je pense notamment au député Ferrand à l'époque, c'est qu'il y avait une crainte qui est double, mais qui, à mon sens, est liée. La première, c'est finalement, si on constitutionnalise des droits du numérique et notamment le droit à l'accès, eh bien, on empêche le politique de se faire, dans une certaine mesure, le principal architecte de ces nouveaux droits et de, finalement, de l'intérêt, en tout cas de la réflexion sur y a-t-il ou pas un intérêt à consacrer des droits du numérique dans une matière qui est en fait, à l'époque, mais qui peut toujours l'être considérée comme telle, eh bien, on considère qu'il y a une potentialité derrière les droits du numérique, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à garantir des droits et des libertés. Et donc, le législateur perdrait cette possibilité au profit des juges, alors des experts aussi, mais surtout des juges, puisque finalement, le législateur ne pourrait plus adopter que des lois qui soient conformes à cette charte numérique. Il y avait aussi un autre élément, je pense, dans son propos, c'est que il y a une certaine frilosité, peut-être une partie des constitutionnalistes, eh bien, soit à modifier la Constitution, soit à lui adjoindre de nouveaux textes. Elle avait dit, hein, au même moment où elle usite du propos que vous venez de citer, qu'il était pour elle dangereux, je cite, de multiplier les chartes adossées à notre Constitution, c'est-à-dire cette crainte que, en constitutionnalisant trop de droits et libertés, donc ceux liés au numérique, on banaliserait le texte constitutionnel et donc on lui ferait traiter, pas de tout et n'importe quoi, mais de thématiques ou en tout cas d'éléments trop précis. Et dans la culture juridique française, il est vrai que nous avons des constitutions qui sont, sauf exception à la période révolutionnaire, relativement bref, très générales et impersonnelles, et on a tendance à laisser au législateur le soin de concrétiser ses droits et libertés. Et donc, je crois qu'il y avait une crainte vis-à-vis de cela, mais le numérique, on le voit, l'Internet le montre, mais de manière générale, les problématiques liées au numérique dans la dématérialisation de l'accès aux services publics, dans les problématiques liées à la participation à la vie démocratique, dans la le fait de s'exprimer sur Internet, mais aussi de collecter de l'information au nom de sa liberté à être informé, eh bien on voit quand même que la question du droit à l'accès à Internet est un enjeu fondamental.
Dans la lignée de cet enjeu, je vais prolonger la question. Consacrer un droit à, c'est aussi en fait s'interroger sur son effectivité. Il faut pouvoir être à même de garantir cette effectivité. Et on sait aujourd'hui que la question de la fracture numérique est une question sensible, hein, fracture en termes d'infrastructure, mais aussi en termes d'usage. J'en ai rapidement parlé tout à l'heure selon les distinctions d'âge, de classe sociale, de handicap et autres. Alors, est-ce que selon vous, c'est peut-être une des raisons qui était aussi à l'origine de la frilosité que vous évoquiez ? Parce qu'il y a une frilosité juridique, mais il y a aussi une frilosité de contexte.
Oui, et je pense une frilosité de finances publiques, de mise en œuvre des politiques publiques, puisque vous parlez d'un droit à... comme on parle d'un droit à la santé, un droit à un environnement sain. Quand on parle d'un droit à, on fait référence finalement à la problématique des ce qu'on pourrait appeler les droits créances, c'est-à-dire qu'on fait peser sur la puissance publique, et donc in fine sur la majorité qui était en place à l'époque, et qui l'est toujours, eh bien on fait peser une obligation qui n'est pas seulement négative, c'est-à-dire de garantir quelque chose, que eh bien, la puissance publique ou, intervienne, s'immisce dans l'exercice d'un droit, une liberté, ou que eh bien, finalement quelqu'un l'en empêche. Non, là, un droit à, c'est considérer que eh bien, la puissance publique doit, dans une certaine mesure, eh bien, mettre les moyens matériels à disposition pour que ce droit soit effectivement mis en œuvre. Parce que constitutionnaliser, ça a une valeur symbolique et juridique importante, mais si on ne le met pas en application, si on ne permet pas qu'il y ait une possibilité effective, si je puis dire, c'est pas très élégant, eh bien, d'accéder à Internet, et si la puissance publique ne met pas les moyens à cela, eh bien, ça reste un droit qui est symboliquement fort, qui est constitutionnalisé, mais qui ne produira pas ou peu d'effets. Et il y avait cette crainte-là de devoir assumer sur le plan des politiques publiques eh bien, un droit d'accès à Internet. Mais il y a aussi un autre risque, et peut-être qui est... alors là, je spécule, je ne suis pas dans le raisonnement de la majorité de l'époque, mais si vous constitutionnalisez ce droit à, et donc que vous donnez la possibilité à de futurs requérants, d'un point de vue contentieux, à la question de savoir, eh bien, j'estime que la puissance publique, l'administration, les services publics, que sais-je, eh bien, ne me permettent pas de bénéficier effectivement de ce droit, eh bien, vous risquez du contentieux devant un juge, alors administratif ou constitutionnel, à travers une question prioritaire de constitutionnalité, mais c'est-à-dire opposer le bénéfice de ce droit à notamment la puissance publique.
Dans la mise en œuvre, quand même, encore récemment, il a été avancé que la question du droit d'accès était jumelée, allait de pair avec la question du droit à la connexion. On a cette proposition qui a été évoquée sur le droit à la connexion. Est-ce que vous pensez qu'il y a ici une façon peut-être de répondre aux besoins et aux enjeux d'effectivité ? C'est quoi le droit à la connexion, en fait ? Parce qu'on en parle souvent comme allant avec, mais c'est différent du droit d'accès. Finalement, est-ce que ça permet un droit à la connexion, permet un meilleur droit d'accès Récemment, parce qu'en 2022, on a une proposition qui a été faite en sens d'instituer un droit à la connexion, un droit opposable et de garantir cette égalité d'accès au numérique. Est-ce qu'on a ici, en fait, un élément de réponse, peut-être ?
À mon sens, je suis entièrement d'accord avec vous, le droit d'accès à Internet et le droit à une connexion, alors opposable ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, une droit à une connexion, ce n'est pas la même chose. Et cette distinction est d'autant plus intéressante parce que permettre l'accès à Internet ne signifie pas, c'est sans doute plus limitatif, ne signifie pas nécessairement que il faille que dans votre sphère privée, vous ayez un accès à Internet. Si la puissance publique vous met à disposition, à travers les administrations, certains services publics, un accès à Internet, peut-être que ce droit serait considéré comme effectivement garanti. Si on a un droit à la connexion, là, on est confronté à un problème qui est plus général et absolu, puisque ça voudrait dire qu'on le pourrait revendiquer auprès de la puissance publique, eh bien, le fait que, bah, comme vous l'avez dit, on peut exiger de la puissance publique d'avoir un accès très haut débit, alors qu'il passerait par la fibre ou par le satellitaire, ou d'un accès mobile, 4G ou 5G, qui serait mis à disposition par la puissance publique. Donc, il y a une différence, à mon sens, et le fait de constitutionnaliser un droit à l'accès à Internet est sans doute moins coûteux, si je puis dire, politiquement, mais aussi budgétairement, pour la puissance publique. Un droit à la connexion, pour l'instant, n'est pas prévu par le droit français, en tout cas au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, puisque la doctrine l'a relativement bien montré, finalement. Le Conseil constitutionnel estime qu'il y a un droit d'accès à Internet qui permet la mise en œuvre de la liberté d'expression et d'opinion, mais ça n'est pas un droit au réseau, si je puis dire, qui serait beaucoup plus large et qui engloberait notamment la problématique de la connexion.
Effectivement, on n'est pas sur un droit, mais on est quand même sur une promesse. La promesse du ministre délégué chargé de la transition numérique du 17 décembre dernier, qui s'est quand même engagé à généraliser des aides à l'accès Internet très haut débit pour tous les Français qui n'en seraient pas encore pourvus, donc des Français encore non exigibles à la fibre. Donc peut-être dans cette annonce, si ce n'est un droit, au moins un espoir à cet égard, du moins.
Alors, je n'aurais pas exactement la même interprétation, mais sans doute qu'il y a une bonne intention derrière, mais je l'interprète en tout cas en partie, parce que de fait, il y a une réflexion sur un droit A qui se pose, mais je l'analyse aussi comme, eh bien, en fait, nous avons un besoin, nous, gouvernement, dans le cadre de la dématérialisation des services publics, dans le fait que désormais, avec France Identité, eh bien, on puisse se connecter à tout un tas de services publics de façon numérique, et peut-être que demain, pour participer à la vie démocratique, eh bien, l'accès à Internet et voire à une connexion, et donc les aides publiques qu'il y a en ce sens pour avoir au moins un accès fixe depuis son domicile à Internet par la fibre ou par un autre moyen, eh bien, d'être un moyen, en fait, pour, si je puis dire, ne pas déconnecter les administrés, les citoyens et, de manière générale, en fait, toute personne résidant sur le territoire français, eh bien, ne pas les déconnecter de ces potentielles mises en relation avec la puissance publique à travers, notamment, ces administrations.
Alors j'en viens peut-être dans le dernier temps de notre échange à ce que vous avez plusieurs fois évoqué, la perspective en fait offerte par le droit d'accès en tant que condition d'exercice à d'autres droits et libertés, parce que c'est peut-être finalement ici que se situe le véritable enjeu, à vouloir pérenniser ce droit en le constitutionnalisant, en le protégeant. Vous citiez plusieurs exemples tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez revenir sur certains d'entre eux? Quels seraient les droits et libertés particulièrement au cœur, finalement, de cette consécration du droit d'accès, de cette protection du droit d'accès?
Ça peut être un peu pêle-mêle, mais si on constitutionnalise un droit d'accès à Internet et donc on consolide dans une certaine mesure la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on n'est plus dans la perspective uniquement de... Parce que c'est ça l'objet de la décision du Conseil constitutionnel, c'est on garantit ce droit d'accès à Internet pour, effectivement, par d'autres moyens que par la télé, par la discussion dans la rue, par la radio, désormais par Internet, donc, eh bien, la mise en œuvre de la liberté d'expression et d'opinion. Si on la constitutionnalise, ça va plus loin. Ça veut dire qu'on estime pouvoir réaliser la liberté d'expression et d'opinion, mais pas que. Peut-être que demain, eh bien, avoir un droit d'accès à Internet, c'est une façon de permettre la réalisation d'un droit à... la santé, par notamment le fait que, mais c'est déjà un peu le cas, par le fait qu'on peut recourir à des téléconsultations avec des médecins. C'est aussi la possibilité, eh bien, de diffuser ces idées et de les diffuser dans un cadre désormais constitutionnalisé. Alors, pour défendre un point de vue politique, si on est un parti politique, mais aussi pour défendre des causes, si, par exemple, on est une association. Et sur cet aspect-là, eh bien, constitutionnaliser un droit d'accès à Internet, c'est peut-être donner un cadre qui, demain, posera la question du vote électronique ou du vote depuis chez soi. Alors, on pense toujours à l'élection, mais aussi bien au niveau local qu'au niveau national, parce qu'il y a un discours qui est politique et juridique là-dessus sur l'extension du champ du référendum, si demain on dispose de techniques, ou en tout cas on veut consulter de manière beaucoup plus importante les électeurs sans qu'ils n'aient besoin de se déplacer, donc peut-être en réduisant le phénomène de l'abstention, garantir un droit d'accès à Internet permettra aussi de réaliser les individus à travers leur qualité de citoyen.
On a effectivement parlé il y a quelques émissions maintenant de cette question du vote électronique. Et vous avez raison de souligner l'enjeu vis-à-vis de la participation à la vie publique et démocratique. Alors, dernière question, je pense, pour ouvrir cet échange. En vous écoutant, on parle beaucoup d'accès à Internet, on parle d'idée de constitutionnaliser cet accès, mais en lien avec mes propos introductifs, compte tenu des enjeux de cette constitutionnalisation, est-ce qu'on ne dépasse pas ici le seul aspect du droit pour aller vers finalement un enjeu de politique publique, vers une question qui dépasse ce périmètre?
Oui, parce que finalement, je ne l'ai pas dit clairement, je crois, mais je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais finalement, le droit d'accès à Internet, c'est finalement la possibilité de réaliser d'autres droits et libertés. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est une condition préalable, nécessaire, mais insuffisante, pour ensuite réaliser sur l'espace numérique, la formule n'est pas élégante, eh bien, d'un certain nombre de droits et libertés. Et donc, à partir de ce moment-là, si on veut réaliser sur l'espace numérique tous ces droits et libertés, la constitutionnalisation de l'accès à l'Internet peut s'entendre, mais elle va conduire à réfléchir à pour assurer l'effectivité de ce droit, est-ce que finalement il ne faudrait pas transformer, alors selon quelle modalité, je ne sais pas, mais est-ce qu'il ne faudrait pas transformer la problématique de l'accès à Internet en une politique publique de l'accès à l'Internet, et notamment en réfléchissant à la question de savoir est-ce qu'il faudrait se doter d'un service public de l'Internet, ou en tout cas de l'accès à Internet, c'est-à-dire un service qui, au nom de l'intérêt général, alors qui serait assuré par la puissance publique ou assumé par elle à travers notamment des acteurs privés, mais qui finalement permettrait de s'assurer de l'effectivité de ce droit et donc de la réalisation des autres droits et libertés sur l'espace numérique, en prévoyant que tout un chacun, administré ou citoyen, puisse accéder à Internet pour réaliser ses droits.
En vous écoutant, Thibault Mulier, oui, on se rend compte qu'on part d'un Internet qu'on a voulu construire sans État. On a évacué cette logique étatique, et finalement, en voulant garantir ce droit d'accès, on retombe aux enjeux de politique publique. On remet l'État au centre. Merci beaucoup pour cet échange. Cette musique que vous venez d'entendre est sans doute un bon exemple de l'un des dangers d'un accès sans bornes à Internet, de l'effet viral aussi, de la diffusion des contenus, des idées qui y circulent. Intitulé « Fragile », ce morceau avait été attribué au groupe Daft Punk pour être la nouvelle bande originale du film « Tron Legacy », avant finalement que ça ne soit démenti, sans visiblement pour autant que son réel auteur ne soit jamais connu. Pour finir, je vous propose donc de repartir plus de 10 ans en arrière avec une lecture d'un extrait de la déclaration du Comité des ministres sur des principes de la gouvernance de l'Internet.
L'Internet rassemble un vaste ensemble d'idées, de technologies, de ressources et de politiques qui s'est développé autour du principe de liberté, grâce à un effort collectif au service de l'intérêt commun. Les États, le secteur privé, la société civile et les individus ont tous contribué à construire l'Internet dynamique, inclusif et couronné de succès que nous connaissons aujourd'hui. L'Internet offre un espace de liberté qui facilite l'exercice et la jouissance des droits fondamentaux, les processus participatifs et démocratiques et les activités sociales et commerciales. Principe de la gouvernance de l'Internet. Premier principe, droits de l'homme, démocratie et état de droit. Les dispositions pour la gouvernance de l'Internet doivent assurer la protection de tous les droits et libertés fondamentaux et affirmer leur universalité, leur indivisibilité, leur interdépendance et leur corrélation, conformément au droit international des droits de l'homme. Elles doivent également veiller au respect plein et entier de la démocratie et de l'état de droit, et elles devraient promouvoir le développement durable. Tous les acteurs publics et privés devraient reconnaître et respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans leur fonctionnement et leurs activités, ainsi que dans la conception de nouveaux services, technologies et applications. Il devrait être au fait des évolutions qui conduisent à l'amélioration des droits et libertés fondamentaux, mais également de celles qui constituent des menaces pour ces mêmes droits et libertés fondamentaux, et participer pleinement aux efforts visant à reconnaître de nouveaux droits. Deuxième principe, gouvernance multi-acteurs. L'élaboration et la mise en place des dispositions pour la gouvernance de l'Internet devraient assurer, de manière ouverte, transparente et responsable, la pleine participation des gouvernements, du secteur privé, de la société civile, des milieux techniques et des utilisateurs, compte tenu de leur rôle et de leurs responsabilités spécifiques. L'élaboration des politiques publiques internationales relatives à l'Internet et des mécanismes de gouvernance de l'Internet devrait permettre la pleine participation égale de toutes les parties prenantes de tous les pays.
Thibaut Mullier, que vous inspire ce texte ?
Eh bien, ce texte, il m'inspire deux choses. La première, c'est de constater que finalement, l'Internet est un espace où toutes les droits et les libertés classiquement envisagés dès la période révolutionnaire jusqu'à au sortir de la Deuxième Guerre, eh bien, peuvent, d'une façon renouvelée, devoir à être exercés sur l'espace dématérialisé de l'Internet. Et l'autre, c'est que cet extrait parle de la contribution générale des acteurs privés, des sociétés économiques, des associations, des États à la construction de l'Internet comme un espace de liberté, alors que finalement, on constate que Internet, c'est quand même un espace qui sort des logiques territoriales, des logiques étatiques, mais qui, pour se développer et pour être régulé, a besoin d'acteurs, et je pense notamment aux États, qui imposent des logiques qui sont, dans une certaine mesure, contradictoires avec l'Internet, qui est fondée sur une idée de liberté et de déterritorialisation de cet espace.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Thibaut Mullier, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.